Chapitre 8, où l'on voit que le comte Willy Wehrmacht n'est pas précisément maître de ses actions. La propriété de Fontainebleau, dans laquelle s'était installé Willy Wehrmacht, était l'une des plus belles des environs. Elle consistait en un vaste pavillon Louis XVI, presque un château, et en un parc de 2 hectares qui communiquait directement avec la forêt. Malgré tous les agréments qu'elle comportait et les relations que ce beau Willy avait su se créer très promptement parmi les gens chics du voisinage, le don Juan des grands bars ne s'y plaisait guère, et très fréquemment, après avoir été prendre des nouvelles de sa femme à la maison de santé du Beuvron, où la malheureuse faisait une cure d'isolement, le beau Willy, dans sa 11 chevaux 6 cylindres, qu'il pilotait lui-même avec la maestria d'un professionnel, se rendait à Paris où il possédait une discrète et élégante garçonnière au rez-de-chaussée d'un riche immeuble de la rue Lincoln. 2 jours après les événements que nous venons de décrire, il était arrivé vers 3 heures de l'après-midi et aussitôt, il avait demandé Mme Artigot au téléphone. « Rien de nouveau ?» avait-il interrogé. La grande couturière, qui devait avoir des raisons de ménager Willy, s'était bien gardée de lui faire part de la communication que Mme Gervais lui avait faite, ainsi qu'elle avait formellement promis à Cagliostro. Mentant effrontément, ainsi que le faisait chaque fois qu'elle le jugeait utile, elle lui avait simplement déclaré que la femme du dessinateur lui avait fait savoir qu'elle était souffrante et qu'elle ne pouvait, à son vif regret, venir au rendez-vous qu'elle avait pris la veille avec elle. Wehrmacht s'était contenté de cette explication somme toute très raisonnable, mais il avait voulu prendre lui-même des nouvelles de celle qu'il attendait avec une fébrile impatience. Madame Artigot lui avait fait remarquer qu'il n'était pas correct qu'il s'enquît de la santé d'une femme dont il ne connaissait pas le mari. « C'est très juste, » reconnaissait le bel âtre. Et voilà pourquoi, étant sans nouvelles depuis 48 heures, et de plus en plus, non pas amoureux, car il en était incapable, mais désireux de retrouver rapidement celle qu'il avait décidé de prendre pour maîtresse, en arrivant dans sa garçonnière, il s'était précipité sur l'appareil. À sa vive déception, Madame Artigot, qui tenait à gagner un peu de temps, lui déclarait « Elle va mieux, mais elle est très fatiguée, très surmenée, et le médecin a exigé quelques jours de repos à la campagne. Elle est partie ce matin avec son mari pour 8 jours, chez ses parents, qui ont un château, je ne sais où, aux environs de Chantilly, je crois. » Madame Artigot, cette fois, sauf que Marie-Thérèse ne s'était jamais si bien portée, disait la vérité. Madame Gervais, en rentrant chez elle, ainsi que cela avait été convenu avec le mage, s'était jetée dans les bras de son mari et lui avait demandé pardon de l'avoir soupçonnée, en des termes tellement pleins d'élan que Jacques lui avait immédiatement déclaré qu'il ne restait plus rien de l'incident fâcheux qui s'était élevé entre eux. Et pour achever de dissiper le nuage dont leur bonheur avait été assombri, tous deux, d'un commun accord, avaient décidé de se rendre au château de Marolles, dans l'Oise, où M. et Mme Castelet ne cessaient de les réclamer. Jacques pourrait emporter son travail et Marie-Thérèse, qui avait résolu désormais d'être pour lui la vraie compagne qu'elle aurait dû toujours rester, s'en fut la conscience libérée, l'âme en repos, le cœur tout à son amour retrouvé et bénissant en secret ce cher Cagliostro dont les conseils venaient de la sauver du naufrage. En revanche, le coup de téléphone de la grande couturière proposait chez le comte Wehrmacht une mauvaise humeur très accusée. « C'est bon, je vous remercie, » fit-il sèchement dans le fil. Madame Artigot répliquait. Vous êtes fâché contre moi? Oh, pas du tout, riposta Willy. Je trouve seulement que ça traîne beaucoup trop. Mais vous avez été tellement gâté, répliquait l'entremetteuse, que vous voudriez voir tous vos voeux immédiatement exaucés. Alors un peu de patience. N'êtes-vous pas invincible? 8 jours de patience, c'est pas bien long. Et vous verrez, tout ira bien. Willy Zermatt, avec son expérience de conquérant professionnel, lançait. Même si cette petite tenait autant à moi que vous le prétendez, elle n'aurait jamais consenti à partir. Mais une femme mariée ne fait pas toujours ce qu'elle veut, affirmait avec non moins de raison Madame Artigot. Peu cela dépend, scandait Zermatt. Enfin, c'est bien ennuyeux. Au revoir, Madame Artigot. Au revoir, mon cher ami. Venez donc bavarder avec moi lorsque vous aurez 5 minutes. Entendu. Willy raccrocha l'appareil. Il était furieux. Je crois, grommela-t-il, qu'elle m'a fait marcher. Ah, en attendant, je vais aller faire un tour jusqu'au West Club. Il se retourna. Un cri lui échappa. Vous? À sa grande stupeur, il venait tout à coup de se trouver en face d'un prêtre, ou plutôt d'un vieux missionnaire, au crâne brûlé par le soleil et entouré d'un cordon de cheveux qui, coupé très ras, entourait sa tête. Une grande barbe couvrait sa poitrine, sa soutane râpée, ses souliers énormes et son front balafré achevaient d'en faire le type de l'apôtre moderne du colonial. Oh, ça! Grommela Willy, auquel l'apparition soudaine de cet ecclésiastique, à la physionomie et aux allures de pionnier de la civilisation religieuse, dont le martyrologue qu'esthétique catholique a le droit de s'enorgueillir, semblait infiniment désagréable. Mais comment avez-vous pu entrer ici sans que je m'en aperçoive? Fixant son interlocuteur d'un regard perçant, profond et railleur, le missionnaire répliquait: Vous savez bien que le père Ardennais a le droit de pénétrer chez vous à l'heure qui lui convient, mais même à l'aide de fausses clefs, à l'aide de tous les moyens. Et le missionnaire, qui paraissait exercer sur le donjon des grands bars un ascendant considérable, ajouta: Il y a un certain temps que nous nous étions vus. J'ai pas mal de choses à vous dire. Ici, on peut parler sans être entendu. Rien à craindre, déclarait Willy. J'ai pris la précaution de faire placer contre les murs des cloisons de Liège. Sans doute parce que vous attendiez à ce que je viendrais vous trouver ici. Non, parce que je ne voulais pas être gêné par les voisins. Je puis m'asseoir? Interrogeait le prêtre. Je vous en prie. Le père Ardennais s'installa dans un fauteuil. Tandis que Willy, visiblement ennuyé par cette visite imprévue, gardait un silence embarrassé, son hôte reprenait avec un calme, une froideur qui ajoutait encore à la gêne du bel-âtre. Je suis très mécontent de toi. Pourtant, observait Zermatt, vous ne dites plus vous. Et il ajouta, sur un ton de raillerie un peu contrainte, et moi qui me figurais que c'était bon signe. Sévèrement, le père Antoine reprenait. Allez, je te dispense de ce ton persifleur que tu as moins que jamais le droit d'implorer avec moi. Si je suis ici, c'est pour te parler de choses extrêmement sérieuses et te ramener d'un chemin dont tu n'aurais jamais dû t'écarter. En ce moment, tu te conduis comme un étourneau. Mais ce n'est pas ma faute s'il vous est arrivé un accident qui n'est empêché d'exécuter vos instructions jusqu'au bout. Alors, martela le père Ardennais, tu étais bien décidé à la tuer? Oui, dès qu'elle aurait fait le testament, je vous désirais, et qui me mettait en possession de toute sa fortune. Bien! Et retirant de l'une des poches de sa soutane une enveloppe cachetée qui le montra à Willy, l'étrange et impassible missionnaire dit: Bien, ce testament, le voici. Que me dites-vous là? S'exclamait le bel âtre. Oui, cette enveloppe, scandait le père Ardennais, contient les dernières volontés de ta femme, notamment la clause que je voulais. Alors elle me laisse tous ses biens. Tiens, vous êtes sûr? Parbleu, puisque c'est moi qui rédigeais ce testament d'un bout à l'autre et l'ai signé pour elle. Effaré, Willy se taisait. L'homme en soutane poursuivait. Cela m'a pris beaucoup de temps, donné énormément de mal, mais enfin, c'est bien réussi. L'expert le plus avisé de ce régnier qu'il a été rédigé à Nice, à la date du 27 mars dernier, et entièrement écrit de la main de ta femme. C'est ce que j'ai peut-être fait le mieux dans toute mon existence. Alors maintenant, il s'agit plus que d'envoyer Gisèle dans l'autre monde. Blême, la voix sifflante, les mains agitées d'un tremblement convulsif, le comte Zermatt murmurait: Et c'est moi que vous avez choisi pour cette besogne? Non, quand décidément tu es de robot maladroit. Qui alors? J'agirai seul. Ah, j'aime mieux cela, fit le bel âtre entre ses dents. Le faux missionnaire, qui, ainsi que nous verrons tout à l'heure, n'était autre que l'un des plus atroces bandits qui aient jamais existé, reprenait avec une tranquillité effarante. Tout à l'heure, nous allons partir pour Fontainebleau. Tu me présenteras comme un vieil ami de la famille et tu me laisseras une minute avec Gisèle. Et demain matin, son infirmière la trouvera morte dans son lit. Vous ne craignez pas? Le regard du pseudo-père Ardennais devint soudain terrible, et avec un accent non moins effrayant, il rit. Non, non, je ne crains rien, et tu devrais le savoir mieux que personne. Eh bien, partons, fit le bel âtre, qui semblait n'être entre les mains de ce mystérieux personnage qu'un pantin dont celui-ci tirait toutes les ficelles. Non, pas encore, j'ai d'autres instructions à te donner. D'abord, tu vas me faire le plaisir de renoncer à poursuivre de tes assiduités cette Madame Gervais. Comment, vous savez? Oui, que tu as voulu prendre cette petite maîtresse pour maîtresse, et tu as eu recours au service de cette gueuse de mère Ardigo pour arriver à tes fins. Oh, celle-là, je lui garde un chien de ma chienne. Constatant que Zermatt se considérait avec un certain effarement, le faux père Ardennais reprenait. Bon, ça, mais est-ce que tu te figures que j'ai pas toujours un œil sur toi? Fort heureusement, d'ailleurs. Car si j'étais pas là, mon pauvre garçon, il y a longtemps que t'aurais eu maille à partir avec la justice de ton pays, qui t'aurait certainement envoyé faire un petit tour du côté de la Guyane. Et d'un ton âpre, il ajouta: Plus que jamais, tu dois aveuglément obéir. Encore une étape, et nous toucherons au but que j'ai résolu d'atteindre. Tu me remercieras alors d'avoir courbé ta volonté sous le joug de la mienne. Maintenant, écoute-moi bien. Ce que j'ai à te dire est de la plus haute importance. Et l'homme abominable demanda: Connais-tu la danseuse qui vient de débuter au Moulin Rouge et qui a obtenu un très grand succès? Voudriez-vous parler de Marquita? Oui, c'est cela même. Eh bien, il faut qu'avant un mois, tu sois son amant. Ben, c'est pas une corvée abominable, ricanait cyniquement le Don Juan des Grands Boulevards. Mais puis-je savoir pourquoi vous voulez que j'obtienne les bonnes grâces de cette charmante enfant? Oh, pour l'instant, je ne puis pas te le révéler, mais tu n'entendras pas à le savoir. Et vous dites que c'est la dernière étape. Oui, la dernière, fit le misérable, dont les yeux s'embrasèrent d'une flamme infernale. Et il ajouta: Allez, maintenant en route! Quel était donc ce bandit que nous venons de voir dans l'exercice de ses atroces fonctions? Ceux qui ont lu nos autres ouvrages, Les Martyrs de Paris, Le Don Juan des Grands Bars, Du Dancing au Trottoir, Seul avec son cœur, Le Bourreau des Femmes et Connais-tu l'amour, l'auront certainement reconnu. Pour les autres, résumons en un très bref résumé le pédigré de ce sinistre individu. Tour à tour, banquier véreux, condamné aux travaux forcés à perpétuité, évadé du bagne, reparaissait à Paris sous le nom, sous les traits d'un certain baron Mirador, vite proclamé roi des snobs, à la veille d'être démasqué, se faisant passer pour mort, reparaissant sous le nom de docteur Miracle, s'éclipsant une deuxième fois pour reparaître sous les traits du père Ardennais, missionnaire de l'ordre de la Miséricorde, ce bandit formidable, dont le nom véritable était Jacques Villard, ne s'était pas contenté de collectionner les crimes les plus effroyables. Il avait encore réussi à associer son fils à ses forfaits. Et ce fils n'était autre que le comte Willis Zermatt. Doué d'un véritable génie criminel, Jacques Villard avait, grâce à son habileté de faussaire et à certaines collaborations occultes dont nul n'avait jamais percé le mystère, avait réussi à fabriquer tous les états civils et pièces diverses qui établissaient les différentes personnalités qu'il avait dû endosser. Il avait procuré à son fils Robert, dont les instincts pervers s'étaient d'ailleurs manifestés depuis ses premières années, un état civil qui en faisait l'unique rejeton d'une vieille famille des Balkans, dont les ancêtres au XVIIIe siècle avait régné sur l'Hespérie, pays situé entre la Roumanie et la Russie, mais dont la dynastie s'était en réalité éteinte depuis la disparition du dernier comte Zermatt authentique, qui s'était bravement fait tuer en 1914 en combattant dans les rangs de l'armée française et dont la veuve n'avait pas tardé, broyée et minée par le chagrin, à mourir aussi. Doué d'appétit sans limite et d'ambitions effrénées, Jacques Villard était devenu le véritable Méphistophélès de ce Faust contemporain. Il était parvenu sans peine à détruire en lui ce qu'il y avait de bon et qu'il devait à ses grands-parents maternels, de braves gens qui s'étaient efforcés d'en faire un honnête homme et étaient morts de chagrin, constatant un jour que Robert était parti de chez eux en emportant 20 000 francs. Mais, à son vif regret, le bagnard évadé avait constaté que son fils n'aurait jamais son envergure. Naturellement paresseux, gagné par les faciles conquêtes que lui avait valu son beau physique, Robert eût certainement préféré vivre une existence tranquille que de se lancer dans des aventures aussi dangereuses que compliquées dans lesquelles son père l'entraînait. Après avoir épousé la fille du riche banquier Navarreins, qui lui apportait déjà un nombre respectable de millions, il n'eût pas mieux demandé que de goûter en paix les joies d'une existence somptueuse et exempte de graves péripéties. Mais le bagnard, qui à ce moment, sous le nom de baron Mirador, régnait en maître absolu sur cette coterie aussi imbécile que malfaisante que formaient les snobs, avait exigé que Robert s'emparât de la fortune, la lui remît et qu'ensuite, à l'aide d'un chantage dont il était l'inspirateur, il obtint que sa femme acceptât de divorcer, et fit même défaut au procès. Et Robert, muet en contes Zermatt, avait dû obéir aux exigences paternelles. Jacques Villard le tenait si puissamment. Il n'avait qu'un mot à dire pour que, dépouillé de son nom et de son titre, le Don Juan des grands bars ne retombât dans la boue dans laquelle, avant qu'il eût retrouvé son père, il était en train de s'enliser. Mais ce sacrifice très réel, car sans aimer sa femme, pas plus que l'enfant qu'il avait d'elle, le beau Willy, qui, suivant son expression, n'éprouvait pas le besoin de changer de tiroir, n'avait pas suffi à Mirador. Il avait jeté son dévolu pour son fils sur la fille du roi du caoutchouc, le richissime américain Herbert Blutledge. Et cette fois, il s'était heurté à de grandes difficultés. Si la charmante Miss Norma avait été, comme tant d'autres, fascinée par le séducteur irrésistible qu'était le comte Zermatt, son père s'était nettement opposé à ce mariage. Alors Jacques Villard n'avait pas hésité, il avait assassiné Sir Blutledge. Mais contrairement à ses prévisions, cet acte abominable n'avait fait que grandir, solidifier l'obstacle qu'il voulait supprimer. En effet, un ami du milliardaire, l'habile détective américain Douglas Wilson, avait fini par savoir la vérité. Jacques Villard allait être arrêté lorsque, flairant le péril, il avait simulé une mort subite et réussi à faire déposer en grande pompe le cercueil dans lequel il était censé avoir été enseveli dans un caveau du cimetière Montparnasse, au-dessus duquel ses admirateurs et amis de cercle du West Club lui avaient élevé un monument. Grâce à l'intervention du curé de Beaumont-Chancy, ami et confident des grands-parents de Robert, Miss Norma ainsi que Sir Douglas Wilson avait consenti à ne point porter plainte contre le faux comte Zermatt à la condition que celui-ci s'engagerait à disparaître et s'en alla loin, très loin, se racheter, se rénover par une existence de travail et d'honneur. Robert, qui, foudroyé par la disparition de son père, que lui aussi croyait mort, tomba gravement malade et demeura dans un état d'autant plus profond qu'il ignorait ce que son père avait fait de la fortune qu'il s'était appropriée. Il s'était laissé emmener à la campagne par le curé de Beaugency, l'abbé Morel. Qui sait si, sous l'influence de ce saint homme, il n'eut pas tenu l'engagement qu'il avait pris envers Miss Norma et le détective, c'est-à-dire de s'en aller aux colonies. Complètement rétabli, il était sur le point de partir lorsqu'il se rencontra avec les dames de Calabert. Et nous avons vu plus haut comment avait tourné l'aventure. Mais hâtons-nous de dire que c'était Wilshire Mirador qui, ressuscité sous les traits d'un certain docteur Miracle, en avait tenu tous les fils, et que pas plus il n'avait hésité à supprimer le comte de Calabert qu'à fabriquer de toutes pièces un testament qui déshéritait entièrement la comtesse et laissait à Gisèle une fortune de 60 millions. Mais pourquoi, objectera-t-on, Miss Norma et Douglas Wilson n'avaient-ils pas démasqué le fils du bagnard qui avait eu la cynique audace de reparaître à Paris sous le nom du comte Zermatt? Oh, c'est bien simple. Le docteur Miracle avait, comme toujours en pareil cas, eu recours au chantage. Il avait fait savoir à Miss Norma qu'il était en possession de documents qui prouvaient que son père, l'ex-roi du caoutchouc, avait acquis son immense fortune par des moyens illégaux et même criminels, bien qu'elle ne doutât pas de l'innocence de son père. Miss Norma, qui n'ignorait pas le mot célèbre de Beaumarchais, « Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose !» s'était d'autant plus effrayée de cette menace qu'elle était à la veille d'épouser un jeune avocat. Maître Henri Beauvernac, qu'elle aimait, dont elle était aimée, avec la même intensité de sentiment, avec la même sincérité de tendresse. D'accord avec Douglas, il avait été entendu que l'on garderait le silence et qu'on laisserait le comte Zermatt épouser Mademoiselle de Calabert. Mais Douglas Wilson ne s'était nullement tenu pour battu. Avec sa prodigieuse habileté, jointe à un courage calme et sans limite, aidé par sa secrétaire, Miss Ruth Lavers, il avait fini par découvrir que le docteur Miracle n'était autre que Jacques Villard. Celui-ci, véritable anguille, avait encore réussi à lui glisser dans les mains et à arrêter les poursuites du détective américain à l'aide de cette arme dont il savait toujours se servir avec une astuce incomparable, le chantage. L'ex-bagnard avait appris comment, oh, lui seul eût pu le dire, que Sir Douglas Wilson, que nous verrons bientôt apparaître dans ce récit, avait été autrefois l'amant d'une femme mariée, qu'il avait eu d'elle un enfant, une fille, que cette fille avait été emmenée un jour aller en France par le détective qu'il avait confié à de braves gens, que toute petite elle avait disparu dans des conditions demeurées inexplicables. Alors il s'était introduit dans le domicile du détective pendant l'absence de ce dernier et avait réussi à lui dérober toute une correspondance de Douglas avec sa maîtresse, et qui établissait d'une façon péremptoire la véracité des faits que nous venons de rappeler. En possession de ces documents, d'autant plus compromettants qu'ils étaient exceptionnellement authentiques, il avait fait savoir au détective que si celui-ci persistait à lui faire la guerre, il n'hésiterait pas une seule minute à remettre au mari de la dame compromise toutes ces lettres qui ne pouvaient lui laisser aucun doute sur la culpabilité de sa compagne. Or, le mari en question était devenu l'un des personnages politiques les plus en vue des États-Unis. Cela fait, le docteur Miracle, qui savait à quel adversaire redoutable il avait affaire, jugea plus prudent de faire un nouveau plongeon. Et ce fut alors qu'il adopta le personnage du père Ardennais, qu'il représentait et interprétait, ainsi que nous l'avons constaté, avec le même talent qu'il avait mis à ses autres rôles. Quant à Douglas Wilson, malgré la terrible menace que le bandit faisait poser sur sa tête, il était toujours décidé à le démasquer. Cependant, il jugea utile de laisser croire à ce dernier qu'il avait entièrement renoncé à le poursuivre. Et après avoir épousé sa charmante secrétaire, qu'il aimait depuis longtemps et dont il était aimé, lui aussi, sans qu'il s'en doutât, il partit avec elle pour un long voyage. Jacques Villard, pensant être à jamais débarrassé de lui, put continuer en toute liberté la série de ses sinistres exploits. Celui qu'il se préparait à accomplir, c'est-à-dire l'assassinat d'une pauvre démente, comptait parmi les plus effroyables. Mais il n'en paraissait nullement préoccupé. Son cynisme était tellement formidable qu'il parvenait même à le communiquer à son fils. Et ce fut fort allègrement qu'ils montèrent dans l'auto qui avait amené de Zermatt à Paris. Vers 5 heures de l'après-midi, ils arrivèrent à la maison de santé où était soignée la pauvre Gisèle. C'était un ancien château du XVIIe siècle qui avait été fort remarquablement aménagé en station de repos et d'isolement et qui n'acceptait que la clientèle choisie. Après avoir laissé sa voiture devant la grille, Zermatt et son père franchirent le seuil, salués jusqu'à terre par le portier que Willy avait su acquérir en lui distribuant ainsi qu'à tout le personnel de généreux pourboires. Ils traversèrent une allée sablée et bordée de tilleuls, dont le vent essaimait les feuilles automnales, qui allait s'ajouter au tapis doré qui s'étendait déjà sur le sol. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à l'ancienne cour d'honneur, vaste et encore parée, ainsi qu'au temps du grand roi. Puis ils gagnèrent un escalier de pierre à double évolution, qui avait été copié sur celui du palais de Fontainebleau. Engravirent les marches et pénétrèrent par une large porte dans un vestibule où un valet de chambre en habit noir et cravate blanche attendait, assis derrière une table, en attitude grave d'un personnage important. Néanmoins, à la vue des deux visiteurs, il se leva, demandant à Willis Hermat, sur un ton d'onctueuse déférence, « Oh, monsieur le comte désire sans doute monter à l'appartement de madame la comtesse. »« Oui, Barthélemy, je vais appeler une infirmière. » « Non, c'est inutile, refusait le don Juan des Grandbas, je connais la route. » Et il s'engagea avec son compagnon dans l'escalier qui conduisait au premier étage. Barthélemy les regarda s'éloigner, très impressionné par la vue de cet ecclésiastique qu'il n'avait jamais vu et dans lequel il avait cru repérer immédiatement un missionnaire. Comme il était un pieux et même un pourrait pieux laïque, il se promit, lorsque le bon père redescendrait, de lui demander sa bénédiction. En attendant, les deux misérables avaient atteint le large couloir sur lequel donnait la porte de l'appartement occupé par Gisèle. Willy l'ouvrit, sans frapper, et pénétra, suivi par son père, dans une antichambre et de là, dans un petit salon très clair, très gai, dont les fenêtres donnaient sur le parc, où la pauvre démente aimait à se promener en compagnie de la sœur Monique, une bonne et douce religieuse qui ne la quittait guère, et s'était prise pour elle d'une sorte de maternelle affection. Les deux visiteurs constatèrent que la pièce était vide. Un peu désappointé, Robert s'en fut jeter un coup d'œil dans la chambre et dans le cabinet de toilette. Là non plus, il n'y avait personne. Revenant vers le soi-disant père Artenay, qui attendait dans le salon, il lui dit « Oh, sans doute Gisèle est-elle allée faire une promenade dans le jardin avec sœur Monique. Pourtant, il n'est pas 6 heures. Mais va t'informer, ordonnait le bandit, que ce contretemps semblait vivement mécontenté. Oh, inutile, reprenait le belâtre, et il appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique. Quelques secondes après, sœur Monique apparaissait. C'était une brave femme, douée d'un certain embonpoint, et dont la religion devait être toute d'indulgence et de douceur, tant son visage, aux yeux candides, exprimait à la fois de dévouement cordial et de clarté morale. Ma sœur, a attaqué le comte Zermatt, voici le révérend père Ardennais de l'ordre des Pères de la Miséricorde. La religieuse s'inclina devant le faux missionnaire, qui répondit à son salut avec une bienveillance un peu majestueuse. Willy poursuivait, et avant de s'en aller évangéliser les Chinois, le révérend père Ardennais avait été mon professeur au collège de Blois. Mais de passage à Paris, il a su le terrible malheur qui m'avait frappé, et dans son inépuisable charité, il a bien voulu se rendre aujourd'hui auprès de ma malheureuse femme, afin de chercher, avec l'aide de ce Dieu dont il est un si noble auxiliaire, à ranimer en elle la flamme qui est éteinte. Mon révérend père, soyez le bienvenu, déclarait sœur Monique. Sans doute avez-vous déjà vu notre altière chère pensionnaire. Non, ma sœur, répliquait Zermatt. Elle n'est donc pas dans sa chambre? Non, l'appartement est complètement vide, ripostait le belâtre. Aussi je me demandais si vous n'étiez pas dans le parc avec elle. Voilà pourquoi je me suis permis de sonner. Mais c'est incompréhensible, s'exclamait l'excellente religieuse, dont le visage, ordinairement si plein de sérénité, exprimait maintenant une vive inquiétude. Et elle poursuivit : « Mais je suis descendue avec madame la comtesse Zermatt, ainsi que d'habitude, vers 2 heures. Physiquement, elle était très bien. Et tout en nous promenant, j'avais cru remarquer en elle certains signes de compréhension qu'elle n'avait pas jusqu'alors, et que le médecin attendait avec impatience, parce qu'il devait être pour lui les avant-coureurs d'un retour progressif à la raison. Ainsi, elle m'avait dit, en me désignant le ciel, où brillait un soleil timide à travers de gros nuages gris. Bientôt ce sera l'hiver. Et pour la première fois, et à différentes reprises, elle m'avait appelé Sœur Monique. J'étais enchanté de ce mieux aussi sensible que rapide et imprévu. Au bout de 20 minutes, je parlais de rentrer. Elle me comprit très bien. Mais auparavant, elle voulut s'en aller sur la terrasse qui donne sur la forêt. Et là, pendant un long instant, elle regarda les arbres, écouta chanter les oiseaux, s'intéressant au spectacle de la nature. Elle adressa même de la main un bref bonjour à une auto qui passait sur la route au pied de la terrasse. Tout cela me confirmait, comme dit notre bon docteur Robéniac, une reprise de l'intelligence sur la matière. Je me disais que le bon Dieu avait enfin exaucé mes prières, et je me préparais, monsieur le comte, à vous annoncer la bonne nouvelle et vous dire que madame la comtesse n'est pas chez elle. Mais où a-t-elle pu aller? Je vais voir. » Elle sortit d'un coup de vent en agitant sa blanche cornette de sœur de Saint-Vincent-de-Paul. « Il manquerait plus qu'elle ait pris la clé des champs, » grommela Willy. « J'en doute, » émettait son père. « Mais en admettant que cela soit, on pourrait la rattraper facilement. » Et il eut ce mot diabolique. « Ce ne serait que partie remise. » Sœur Monique revenait, l'air encore plus effaré, et suivie par une de ces religieuses dites converses, et auxquelles sont réservés dans les communautés des emplois domestiques. Sœur Monique, toute pâle d'angoisse, ordonnait « Sœur Agathe, répétez ce que vous venez de me dire. » Sœur Agathe fit d'un air timide et en baissant les yeux « Sœur Monique, obligée de se rendre auprès de notre sœur supérieure qui l'avait mandée, m'avait prié de veiller sur madame la comtesse Zermatt et de ne pas la quitter d'une semelle. Malheureusement, sœur Marthe est venue me chercher pour l'aider à ranger les pots de confiture dans un placard. Et que madame la comtesse Zermatt était endormie dans son fauteuil, et que jamais elle n'avait paru plus tranquille, j'ai cru pouvoir enfreindre la consigne que m'avait donnée sœur Monique, et je suis parti avec sœur Marthe. Mais encore, si vous étiez contenté de ranger les pots, s'écriait sœur Monique. Mais sœur Marthe et vous, vous en avez mangé presque à vous deux, hein? Non, non, sœur Monique, je vous assure que le pot avait déjà été entamé et qu'il était même vide aux 3/4. Le père ardonnait que ces papotages de bonne sœur énervaient, reprenait avec autorité. « Mes sœurs, cette histoire de pot de confiture n'est pas d'une importance telle que vous ne puissiez en différer le règlement. Le plus important est de savoir ce qu'est devenue madame la comtesse Zermatt. » « Sans doute, » opinait sœur Monique, « est-elle redescendue dans le parc sans qu'on la voie. » « Alors, » pressait Willy, « mais cherchons-la tout de suite. » Tous quatre redescendirent et regagnèrent le vestibule. Le dévot Barthélemy se précipita vers le faux missionnaire en disant « Mon révérend père, pourrais-je vous demander de me donner votre bénédiction ?» Et il allait s'agenouiller. Mais le bandit ne lui en donna pas le temps. « Fichez-moi la paix » dit-il en le repoussant avec violence. L'infortuné Barthélemy faillit dégringoler sur les dalles. Puis, littéralement abasourdi, il murmura « C'est curieux combien ces missionnaires sont parfois irritables. Le coup de bambou, comme on dit aux colonies. Dieu ferait bien d'en préserver ses représentants sur la terre. Jacques Villard, son fils et les deux religieuses commencèrent aussitôt l'exploration du parc, sans succès d'ailleurs. Ils eurent beau, aidés des deux jardiniers et de plusieurs autres bonnes sœurs, parcourir toutes les allées, pénétrer dans tous les massifs, fouiller tous les bosquets, ils ne trouvèrent pas trace de la jeune femme. Et l'on devait reconnaître qu'elle avait réussi à quitter la maison de santé. Mais comment? Poussée par le faux missionnaire, Zermatt exigeait une enquête immédiate. La sœur supérieure, une femme de tête, voulut interroger elle-même, en présence de Willy et du père Ardennais, toutes les religieuses ainsi que tout le personnel. Mais elle ne put rien en tirer. Le mystère demeurait complet, impénétrable. Il n'y avait plus qu'à s'adresser à la police. C'est ce que fit aussitôt le comte Zermatt, tandis que son père se demandait, non sans une sourde inquiétude, « Qu'est-ce que cela veut dire?